Les chroniques de l'Académie d'Agen. Les chroniques de l'Académie d'Agen, conçues et présentées par l'Académie des sciences, lettres et arts d'Agen. Des sciences, des lettres, de l'art. À Agen.
Bonjour, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui et on a le plaisir de recevoir Pierre Simon, secrétaire général de l'Académie, accompagné de Hervé Bouillac, où l'un et l'autre vont nous présenter trois sujets, un voyage en Inde avec des conférences de l'Académie, un excellent travail d'Hervé Bouillac sur les mantries, les gasconades, Montcrabeau, les Belges, les Italiens, enfin vous verrez ça, c'est merveilleux, et un rappel de l'ouvrage excellent des antiquités de la ville d'Agen de Beauménil, dont Pierre Simon conclura notre émission. Pierre, l'actualité de l'Académie.
Alors, l'actualité de l'Académie, eh bien, c'est d'abord que les séances de l'Académie ont recommencé avec quand même une contrainte forte, puisque nous sommes en période de Covid. Eh bien, elle s'est faite à distance. La séance du 12 janvier s'est faite par visioconférence. Ce qui d'ailleurs a permis peut-être finalement plus de proximité, paradoxalement, entre les participants et les intervenants. Alors, dans un premier temps, Daniel Christians nous a présenté un voyage fait en direction des Indes par un châtelain de Montbalin, tout en soulignant que c'est un de nos adhérents, André David, qui a trouvé dans les... ce qu'on ose à peine appeler archives dans le grenier du château de Montbalin, un recueil manuscrit de 375 pages qui nous apporte un éclairage extrêmement personnel et précis de la guerre navale contre les Hollandais, tout à fait à la fin du XVIIe siècle, ou du moins entre 1670 et 1672. Le roi, ayant trouvé malin d'essayer de contourner complètement les Hollandais et de les attaquer dans leur comptoir des Indes. Alors, cette escadre qu'on a appelée l'escadre de Perse est partie dès 1670, mais elle est mal partie puisque devant longer la côte d'Afrique, une tempête l'emmène tout simplement vers la côte des Amériques.
Voilà, Cap Horn, Cap, il y avait une erreur de cap, c'est tout.
Il y avait une erreur de cap. Donc, mais néanmoins, en début de l'année 1671, et ils arrivent justement au cap, où d'ailleurs ils sont témoins de scènes de cannibalisme, et puis progressivement, ils avancent vers les Indes. Et c'est à ce moment-là, en avril 1671, que la France a officiellement pris possession de l'île de la Réunion, qui allait servir de base arrière à l'expédition. Oh, l'expédition, d'ailleurs, n'est pas ce que l'on peut appeler un succès, puisque les Hollandais attaquent l'escadre, qui n'était pas encore informé que la guerre était commencée entre la France et la Hollande, attaque l'escadre, la détruisent en très grande partie, et puis, honte suprême, quand même, pour reconnaître le courage de cette escadre qui s'était aventurée dans des eaux complètement inconnues, magnanime propose deux bateaux aux survivants pour pouvoir rentrer en France.
C'est à cette époque-là l'élégance de la guerre.
C'est l'élégance de la guerre, c'est, je dirais, en même temps, sans doute, la complicité entre aventuriers, parce que, disons, que allez, peut-être qu'ils étaient plus marqués par ce mirage des Indes que par leur appartenance à la France ou à la Hollande.
Et tradition du respect entre marins aussi, ça existe c'est, toujours.
Voilà, exactement. Donc là, un travail tout à fait intéressant, qui sera d'ailleurs publié probablement dans le numéro 4, de la revue de cette année 2022. Ensuite, Francis Stéphanus nous a ramené sur aujourd'hui et nous a parlé de l'avancée des travaux du dictionnaire des rues d'Agen. Puisque en 1974, l'Académie avait publié « Les rues d'Agen racontent leur histoire », Cet ouvrage est aujourd'hui épuisé et il n'était pas question de le reproduire à l'identique, hein, dans la mesure où les préoccupations ont quand même beaucoup changé depuis 1974. Et donc là, un groupe de travail de l'Académie se réunit régulièrement tous les mois depuis décembre 2020 pour prendre méthodiquement, par ordre alphabétique, toutes les rues et selon une grille qui avait été adaptée et réfléchie antérieurement, eh bien, actualiser toutes les fiches. Hein. Au passage, je vous informe qu'il y a 549 rues sur la commune d'Agen, hein, et que donc, à l'heure actuelle, il y en a environ la moitié qui ont été retravaillées par ce groupe. Mais Francis Stéphanus viendra lui-même présenter ici non seulement les travaux, mais surtout la manière dont l'Académie compte mobiliser la population, que ce soit par l'intermédiaire des comités de quartier ou que ce soit directement des individus eux-mêmes, hein, qui auraient des choses spécifiques à dire sur leur rue.
Sur l'histoire de leur rue, oui.
Voilà donc le travail tel qu'il s'annonce pour une publication, allez, au mieux fin 2023, peut-être 2024, hein, mais vous voyez qu'il s'agit là d'un travail au long cours, mais qui sera, je pense, déterminant et qui, j'espère, durera lui aussi 50 ans.
Il faut dire que c'est une excellente initiative, car ce livre est indispensable et effectivement, il a besoin d'une réédition réactualisée. Merci l'Académie sur les travaux de toute cette équipe.
Merci Jean-Michel de tes encouragements.
Une petite page de musique qui va nous servir d'entracte, où on va écouter un concerto pour deux pianos de Francis Poulenc. Nous allons aborder maintenant, si vous le voulez bien, avec Hervé Bouillac, qui est l'auteur, j'allais dire presque finalisant sa thèse, car il va la présenter cet été, une thèse sur laquelle il est depuis plusieurs années, sur une thèse qui nous tient à cœur et dont la revue a déjà fait paraître des éléments essentiels, « Quand les molons de Namur rencontrent les menteurs de Montcrabeau ». Alors là, c'est un vaste travail, tout à fait passionnant, sur les menteries, non seulement en France, mais en Belgique, en Italie, et même, Hervé va nous raconter, en Amérique. Alors, Hervé Bouillac, où est-ce que nous en sommes dans les menteries?
Bonjour à tous. Alors, c'est vrai que mon travail m'a emmené assez loin. Parfois, quand on commence une recherche, on tire un fil, des fils, et puis ça nous emmène loin. Pour ma thèse, donc, j'ai décidé de me limiter à trois cas. Donc, j'étudie les académies et les concours de menteurs ou de menterie. Donc, j'ai décidé de me limiter au cas bien connu de l'Académie des menteurs de Montcrabeau, que tout le monde connaît bien ici en Lot-et-Garonne. Une autre académie, alors c'est une société chantante et philanthropique qui s'appelle la Royale Montcrabeau, donc qui se trouve à Namur, en Belgique, qui a tissé des liens très étroits avec nos Gascons depuis très longtemps, puisque c'est une société qui porte dans son titre le nom même de Montcrabeau depuis 1843, voilà. Année de création de cette société philanthropique. Et le troisième cas que j'étudie, donc c'est un concours qui se passe dans un petit village en Toscane, dans la région de Pistoia, donc on est à 30 ou 40 km de Florence. Mais on retrouve ces concours un petit peu partout. On en trouve par exemple en Grande-Bretagne, et c'est une tradition qui était très très présente aux États-Unis, en Amérique du Nord, on va dire, dans l'actuel Canada, et dans ce qui allait devenir les États-Unis.
Alors, ces menteries, et Hervé Bouillac, commencent autour du Moyen-Âge ou avant, ou quelles sont à peu près leurs racines les plus historiques?
On peut remonter au Moyen-Âge, sans doute aussi à l'Antiquité.
À l'Antiquité, oui.
Ce sont les racines, on peut
voilà,
dire.
C'est une tradition, j'allais dire, populaire, finalement, de défoulement, de légende, un peu quels sont les objets que l'on trouve dans les recherches que vous avez faites?
Alors, c'est assez difficile de résumer parce que ça varie vraiment beaucoup, en fait. Hein. Tout dépend de l'inspiration. Mais effectivement, on retrouve des motifs classiques, en fait. C'est-à-dire, ce sont souvent des récits d'exagération.
Voilà, ouais.
D'où les gasconades, bien entendu, et qu'on a accolé, bien sûr, à la figure du gascon. Voilà, donc ça peut être des récits d'exagération qui vont parler du temps, de pêche un petit peu miraculeuse,
voilà, ouais.
Etc., etc.
C'est-à-dire on gonfle la légende au point de la rendre très éloignée de la réalité. Mais au départ, il y a toujours un point de départ qui est juste.
Oui, bien entendu. Et ben, c'est ce qui fait le charme de ce genre d'histoire. C'est effectivement qu'on mêle la fiction et puis des éléments bien réel.
Alors souvent, c'est des objets de concours, de lutte amicale, de joute verbale. C'est à peu près la même méthode dans chacun des pays?
Oui, aujourd'hui, effectivement, ces concours se présentent un petit peu de la même manière. Donc on a un public averti ou néophyte qui vient comme ça un petit peu par curiosité. Nous avons des candidats qui, là aussi, on peut retrouver des gens qui se sont pris au jeu et qui participent depuis nombreuses années à ces concours, et on a aussi des candidats qui s'essayent à l'exercice, et qui n'est pas facile, qui n'est pas forcément facile. Et nous avons bien sûr un jury. Donc là, on va dire les modalités de choix sont différentes
d'un pays à l'autre,
pays à l'autre et d'une académie à l'autre. Vous savez très bien que pour Montcrabeau, ce sont les académiciens qui font leur choix en donnant des pincées de sel dans un sachet, puis c'est le candidat qui rapporte le poids le plus élevé de celle qui est déclaré roi des menteurs.
Oui, je n'oserais pas dire que quand l'anecdote ne manque pas de sel, ça viendrait de là, mais enfin, on peut toujours imaginer, on n'est pas une menterie près. Alors ensuite, vous disiez, Hervé Bouillac, en Angleterre en Amérique.
Alors effectivement, c'est une tradition qui est très très forte en Amérique du Nord et notamment aux États-Unis. J'ai pu repérer peut-être plus d'une dizaine de concours dans différents États des États-Unis. Et encore, je pense que j'en loupe. Et a priori, donc, ce sont des concours qui sont sans doute plus anciens que ceux qui ont été créés en Europe. Donc, je rappelle, celui de Montcrabeau a été créé en 1972. Celui de Namur a été créé l'année d'après. Donc là, on est vraiment dans ce revival, en fait, des traditions populaires typiques, voilà. Des années 70 et 80. Tandis qu'aux États-Unis, non, vous avez des concours déjà qui existent dans les années 50 et sans doute dès le début du XXe siècle. Et à tel point, donc, vraiment, les Américains pensaient que cette tradition des menteries, alors ils appellent ça en américain « tall tale »,
oui, on peut traduire les histoires,
récit d'exagération. Ouais. Et donc, penser vraiment que c'était quelque chose de typiquement américain, mais en fait, par l'immigration, en fait, ça vient d'Europe. Hein. Il faut bien l'avouer.
Oui, normalement, oui.
Voilà. Et c'était une tradition qui était plutôt masculine, effectivement.
Et on trouve encore dans les États américains des concours, vous avez trouvé des traces de concours
Ah oui, j'en ai repéré là plus d'une dizaine et je pense que j'en loupe encore.
Ah, oui, qui se passe tous les ans, chaque année, il y a un mont crabeau aux États-Unis. Voilà,
effectivement.
C'est ça que ça veut dire.
C'est ça. Alors, ça peut se passer dans le cadre, par exemple, d'une foire ou d'un festival folklorique.
Voilà, ou de la fête du comté ou de la ville. Ouais.
Voilà.
Mais voilà un objet de thèse tout à fait original. Comment vous est venue l'idée de présenter ce sujet, finalement ?
Alors, c'est vrai que c'est une thèse en ethnologie ou en anthropologie historique. Donc, je cherchais quelque chose peut-être d'un peu... un sujet où il y ait de l'histoire, en fait.
Voilà, oui, voilà. Évidemment, oui.
Une sorte de profondeur historique. Et c'est vrai que, il faut dire que dans notre région, on va dire la moyenne Garonne, on a assez peu de traditions par rapport à d'autres régions où il y a des traditions très fortes. Par exemple, dans le nord de la France, la tradition des géants processionnels,
voilà,
etc.
Des benges et autres.
Voilà.
Carnavals aussi.
Voilà, des carnavals vraiment très, très particuliers. Ou la fête de Lourdes dans les Pyrénées, ou des choses comme ça. C'est vrai que par chez nous, on manque de traditions quand même bien, bien spécifiques. Et ce qui me semblait le plus naturel, c'était de reprendre cette question de l'Académie et du concours de menterie de Mont-Crabeau.
Eh bien, on va remercier Hervé Bouliac sur... le début de la présentation, mais on sait qu'il va y avoir aussi d'autres publications sur quel thème ?
Oui, alors là, j'ai travaillé assez récemment, c'est tout autre chose, sur les fêtes des produits du terroir. Donc la fête, c'est un objet vraiment classique pour les recherches en histoire et aussi surtout en ethnologie. Et c'est vrai que depuis quelques décennies... le terroir, les produits du terroir sont quand même mis en avant, par de nombreux territoires. Donc c'est à la demande d'un enseignant chercheur de l'université d'Aix-Marseille, qui était dans mon comité de thèse, qui m'a demandé de faire quelque chose. Alors malheureusement, Covid oblige, la plupart des fêtes depuis deux ans, on va dire en quelque sorte, ont réduit leur voilure. Donc j'ai assisté à quelques fêtes, mais elles étaient assez réduites finalement au minimum. Donc j'ai pas pu faire véritablement d'enquête ethnographique avec de nombreux entretiens. Il manquait beaucoup d'aspects de ces fêtes. Mais il fallait quand même faire un inventaire parce que nous sommes quand même dans un des vergers de la France. Et la particularité, c'est qu'on on compte un très grand nombre de fêtes de produits du terroir. La fraise, l'asperge, bien sûr, le pruneau, et j'en passe.
Et j'en passe. Donc, Hervé Bouliac, présentation de thèse, objectif de l'été. Je suis certain que l'université va se régaler à recevoir cette thèse avec tous les honneurs dus aux menteries historiques. Parce que l'esprit universitaire de nos professeurs et de nos patrons de thèse vont se rappeler leurs souvenirs de jeunes étudiants à la lecture des menteries. Bravo Hervé et à très bientôt. Une petite page de musique avant d'aborder avec Pierre Simon le très beau livre de Beauménil et des antiquités des villes d'Agen. Thank you. Pierre Simon, un rappel de la publication de ce fort beau livre des antiquités de la ville d'Agen et des dessins de Beauménil.
Oui, eh bien, récemment, j'ai évoqué tout à l'heure le travail qui se mène à l'heure actuelle sur les rues d'Agen. Eh bien, récemment, nous avons refait un peu un bilan sur le travail qui s'était mené entre 2016 et 2017 pour aboutir donc à la publication de ce manuscrit de Beauménil. Parce que, là encore, c'est le travail, un travail de groupe qui nous a permis de, dans un premier temps, reproduire in extenso et intégralement un petit manuscrit qui se trouvait dans les archives de l'Académie et qui, aujourd'hui, sont déposées aux archives départementales de Lot-et-Garonne 35J30 pour les spécialistes. Donc, un petit cahier qui fait 32 pages, qui est manuscrit, qui est reproduit presque à l'identique dans notre
le format,
ouvrage.
Dans le format,
ouais. Oui, mais un format un peu agrandi parce que il était quand même pas très facile à lire sinon. Là, donc, nous l'avons reproduit sur un format 21-29. Bon, voilà. Et donc, nous avons cette partie reproduction, mais la reproduction en soi d'un document de la fin du XVIIIe siècle n'est pas toujours évidente. Donc, cette reproduction est suivie de commentaires sur le manuscrit de Beauménil qui permet d'en faire le point. Alors, d'abord, qui était Beauménil? Eh bien, on le présente habituellement comme un comédien et un archéologue. Comédien parce que c'était son métier. Et comédien parce que pendant 40 ans, il a parcouru la France, principalement un très grand sud-ouest, pour jouer des pièces. Il était même responsable de la troupe. Mais en même temps, il s'intéressait aux différents monuments qu'il pouvait voir dans les villes où il passait. Et il est passé, on a trace de ses arrêts à Agen en 1768 et en 1772 et 1773.
Trois fois.
Il est passé au moins trois fois, attesté. Oui. Et donc, pendant les moments où il ne jouait pas, eh bien, il parcourait la ville et faisait des dessins de ce qu'il voyait. Alors, ces dessins, ça va depuis les pièces de monnaie jusqu'aux restes de monuments antiques, en passant, et ça quand même chapeau bas pour l'époque, par des essais, par exemple, de restitution de l'Agen antique tel que lui pouvait le voir à l'époque.
Parce qu'il y avait encore des traces romaines plus proches de lui que pour nous aujourd'hui.
Voilà, exactement. Et donc ça, et comme il est assez artiste, hein, il représente un certain nombre de ces monuments. Ceci étant, je l'ai dit, ça demande aussi un peu de réflexion, parce qu'il faisait ça relativement vite, même s'il faisait souvent les choses d'une manière très soignée. Et donc, dans les commentaires, eh bien, notre ami Francis Stéphanus, déjà nommé pour les rues d'Agen, a pris, en gros, une vingtaine de cas où il essaye de voir la correspondance avec la réalité, telle qu'on peut la voir
aujourd'hui.
Il transpose. Et d'ailleurs, la transposition est très souvent favorable à Pierre Beauménil, parce que on s'aperçoit qu'il nous apporte des informations qui, quand on peut les vérifier, sont à peu près fiables. Donc on peut supposer que celles qu'on ne peut pas vérifier sont de même qualité.
D'ailleurs, il y a un plan de la ville d'Agen sur lequel sont repérés localement les lieux et places des dessins ou des commentaires.
Tout à fait. Et ce qui est vraiment frappant chez Beauménil, c'est que, donc vous voyez bien, à la fin du XVIIIe siècle, il a le souci de resituer les monuments qu'il voit sur une sorte de synthèse hein, de ce que l'on pouvait connaître sur le dessin de la ville d'Agen dans l'Antiquité. Autre personne qui a beaucoup travaillé aussi, eh bien, c'est notre ami Stéphane Capot, qui s'est lancé dans un inventaire de tous les éléments que l'on a sur la vie personnelle de Beauménil. Parce que Beauménil, c'est probablement son nom de scène, si l'on peut dire. Et donc, Stéphane pistes, littéralement, les quelques indices que l'on peut avoir, qu'on a pu trouver à ce sujet. Et il publie l'itinéraire de Beauménil tel qu'on peut le connaître. Et c'est donc tout à fait impressionnant de voir toutes les villes dans lesquelles Pierre Beauménil a pu jouer et en même temps, au passage, a pu dessiner. Christine Pelleuig, de la médiathèque d'Agen, elle, s'est intéressée au manuscrit parce que c'est un manuscrit démembré, ce que l'on appelle les antiquités de la ville d'Agen. Ce n'est qu'une petite partie, je l'ai dit, 32 pages, sur un ensemble beaucoup plus monumental, au moins 10 fois plus monumental, mais et qui, sans doute pour des raisons économiques de revente, avait été fragmenté pour pouvoir être revendu plus cher. Donc là, Jean-Louis Trézéguet raconte comment le préfet de l'époque avait acheté, au nom de l'Académie, la partie qui concernait Agen, ce qui nous permet aujourd'hui de l'avoir conservée aux archives départementales. Jean-Luc Moreno a fait un travail assez austère d'analyse des monnaies.
Les pièces de monnaie.
Parce que Beauménil était assez fasciné par les monnaies, en décrit beaucoup, en dessine beaucoup aussi. Et finalement, pour la quasi-totalité, ces monnaies aujourd'hui ont disparu. Et donc, ça nous apporte des renseignements tout à fait intéressants sur les monnaies antiques qui étaient connues à Agen à la fin du XVIIIe siècle. Mais pour en arriver là, Jean-Luc a fait un travail. C'est même plus de bénédictin, enfin vraiment d'archéologue, pour pouvoir identifier les très nombreuses pièces dont Beauménil parle. Et donc finalement, quand on refaisait un peu le bilan, on s'était trouvé conforté, on s'était dit qu'on avait beaucoup travaillé, mais finalement que ce travail, ça valait le coup. Non seulement ça nous a laissé un excellent souvenir de collaboration. Alors, mais en même temps que scientifiquement, il tient bien la route. Et donc, il est toujours en vente au prix de 22 euros auprès de l'Académie d'Agen et dans les meilleures librairies.
Eh bien, écoutez, on n'a plus qu'à remercier Pierre Simon et Hervé Bouliac sur l'excellence de ses comptes rendus. Et c'est un très beau cadeau que d'acheter les antiquités de la ville d'Agen. Et il faut remercier tous ceux qui y ont travaillé. En vous remerciant de nous avoir écoutés, au plaisir de vous retrouver le mois prochain pour la prochaine chronique. Merci, à bientôt, portez-vous bien et bonne santé. Au revoir.
À bientôt.
Au revoir.
Les chroniques de l'Académie d'Agen. Les chroniques de l'Académie d'Agen, conçues et présentées par l'Académie des sciences, lettres et arts d'Agen. Des sciences, des lettres, de l'art. À Agen.